Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez SBS French, votre programme en français sur la radio SBS. Il est 13h, je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble et au menu aujourd'hui, comme chaque samedi, la rétrospective. Léo Roussel nous emmène aujourd'hui en 1980 avec la décolonisation du Vanuatu. Aujourd'hui, on va également aller dans les territoires du Nord où se tient le Garma Festival. La journaliste Sana Wahib va nous faire vivre ses 4 jours de célébration, elle y est pour SBS, mais avant on commence avec le journal. Les titres de ce samedi 30 juillet. Le Premier ministre Anthony Albanese au Garma Festival pour proposer un référendum. Objectif, modifier la constitution australienne pour donner une voix au peuple aborigène. En Ukraine, un bombardement sur une prison dans le Donbass, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Alors qu'en parallèle, l'exportation de céréales pourrait reprendre depuis les ports de la mer Morte. Un espoir pour la sécurité alimentaire mondiale. Le secrétaire d'État américain a échangé avec Sergueï Lavrov, une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Anthony Blinken demande la libération de détenus américains en Russie. Et en sport, deuxième victoire d'étape pour la néerlandaise Marianne Vos qui conserve son maillot jaune. On en parle dans le Journal des Sports. Êtes-vous favorable à une modification de la Constitution établissant une voix du peuple aborigène et des insulaires du détroit de Torres? C'est la question à laquelle des millions d'Australiens vont devoir répondre. Anthony Albanese a prononcé son discours tant attendu depuis le Garma Festival, dans lequel il annonce vouloir organiser un référendum pour modifier la Constitution et donner une voix au peuple aborigène. 5 ans après le Uluru Statement from the Heart, l'enjeu est de taille. On écoute le Premier ministre.
Friends, I am delighted to be back at Garma for my 4th visit, and I am delighted that Garma is back. Here, on what is, was, and always will be Aboriginal land, today I reaffirm my government's solemn promise to implement the Uluru Statement from the Heart in full.
3 phrases supplémentaires pourront être ajoutées dans la Constitution pour préciser la nouvelle mesure. Le référendum n'est pas encore à l'agenda, mais pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. Le nouveau gouvernement travailliste se dit très confiant que le oui va l'emporter, à savoir qu'en Australie, sur les 44 référendums du passé, 36 se sont soldés par un échec, 8 seulement donc ont eu une issue positive. On en vient à la réforme des camionneurs, coursiers, transporteurs. Des centaines d'entre eux se rendent au Parlement à Canberra aujourd'hui pour demander plus de mesures de sécurité après la mort de plus de 50 conducteurs au volant dans l'exercice de leurs fonctions l'année dernière. Des convois sont également attendus devant les parlements des États comme Melbourne, Brisbane, Perth ou encore Adélaïde. En août dernier, un rapport avait été déposé au Sénat comprenant 10 recommandations pour améliorer la sécurité dans ce secteur, mais aucune mesure concrète n'a vu le jour depuis. En Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme que les céréales sont sur le point d'être distribuées à nouveau à travers le monde. Un accord avait été trouvé entre Kiev et Moscou la semaine dernière pour débloquer ces exportations, mais n'a toujours pas été appliqué. Au total, ce sont 20 millions de tonnes de céréales qui pourraient être distribuées dans les 4 prochains mois, relançant un espoir pour la sécurité alimentaire mondiale. Léa Broderst pour Radio France Internationale.
C'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le premier chargement de céréales est en cours. C'est Volodymyr Zelensky qui l'a lui-même annoncé devant un navire turc baptisé Polarnet. Selon lui, quelques convois de plusieurs navires pourraient partir d'ici quelques jours, permettant aux exportations de débuter dans les plus brefs délais. Le président ukrainien affirme que les millions de tonnes de céréales coincés dans les ports ukrainiens depuis le début de la guerre, vont bientôt être acheminés sur les marchés mondiaux. Pour le premier départ du port, il ne reste plus qu'à obtenir le feu vert d'Ankara et de l'ONU. L'accord négocié la semaine dernière par les Nations Unies et la Turquie pour lever le blocus russe sur les exportations de céréales de l'Ukraine vise à atténuer la crise alimentaire mondiale qui provoque une flambée des prix dans certains des pays les plus pauvres. L'Ukraine, comme la Russie, sont parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Kiev assure vouloir vendre quelques 20 millions de tonnes d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars dans le cadre de cet accord.
Dans le même temps, une douzaine de prisonniers de guerre ukrainiens auraient été tués dans une prison de la région séparatiste pro-russe de Donetsk. Selon le ministre russe de la Défense, ce sont au total plusieurs dizaines de prisonniers qui sont décédés et plus de 75 blessés dans ce qu'il affirme être une attaque des soldats ukrainiens usant des armes américaines. Kiev, de son côté, nie les faits et accuse Moscou d'être à l'origine de l'attaque. On écoute le président ukrainien.
I heard reports today about the attack of the occupiers on Olenivka, Donetsk region. It was a deliberate Russian war crime, a deliberate mass murder of Ukrainian prisoners of war. More than 50 dead. When the defenders of Azovstal left the plant, the UN and the International Committee of the Red Cross acted as guarantors of the life and health of our soldiers. Now the guarantors must react. They must protect the lives of hundreds of Ukrainian prisoners of war.
Anthony Blinken et Sergueï Lavrov au téléphone pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le secrétaire d'État américain a appelé le ministre russe des Affaires étrangères à échanger des prisonniers. Objectif des Américains, faire libérer la joueuse de basket Brittney Griner et l'ex-soldat Paul Whelan. Selon la chaîne américaine CNN, les États-Unis auraient proposé à Moscou de leur livrer le trafiquant d'armes russe Victor Bout en échange de ces deux détenus. Taïwan alimente les tensions entre les États-Unis et la Chine. J'espère que les deux pays arriveront à gérer judicieusement leurs différends sur l'île. Déclaration du chef de la diplomatie américaine. Cette prise de parole intervient alors que Nancy Pelosi, la chef des députés américains, pourrait visiter Taïwan le mois prochain, ce qui alimente les tensions. Mais Nancy Pelosi rappelle l'importance de maintenir une interaction avec la région. On l'écoute.
Earlier in his term, talked about a strong emphasis on the Asian Pacific. He has visited there, the vice president has visited there, the secretary of commerce and others, and we want the Congress of the United States to be part of that initiative. Of course, as a West Coast person, we see the Pacific as their home. We're part of that as well.
Lors de la dernière venue du président chinois sur le sol américain, Joe Biden avait déclaré que les États-Unis étaient fermement opposés à une modification du statut de Taïwan. En Afghanistan, l'explosion d'une grenade à Kaboul lors d'un match de cricket a fait au moins 13 blessés parmi les spectateurs. Le coordinateur des Nations Unies pour l'Afghanistan était présent dans le stade, il n'a pas été blessé. Mais pour l'ONU, pas de doute, il s'agit bel et bien d'un attentat perpétré par le groupe État islamique, même si l'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. La justice française a mis en examen 4 enfants de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo, aujourd'hui décédé. Ils sont mis en examen dans le dossier dit des biens mal acquis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux. Au total, au moins 8 des 54 enfants de l'ancien chef d'État sont poursuivis. Les explications de Magali Lagrange pour RFI.
Parmi les 4 nouveaux mis en examen dans cette affaire figure notamment Pascaline Bongo, 66 ans, qui a été la directrice de cabinet de son père, et Omar Denis Junior Bongo, 28 ans, qui est aussi le petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. La justice soupçonne ces 4 enfants d'Omar Bongo d'avoir, je cite, « sciemment bénéficié d'un patrimoine immobilier frauduleusement assemblé en France par leur père. L'ensemble de ces biens a récemment été évalué par la justice à au moins 85 millions d'euros. » Cette année, le juge financier a déjà mis en examen 4 autres enfants de l'ancien chef de l'État qui a été à la tête du Gabon de 1967 à 2009. Dans un arrêt en février, la Cour d'appel de Paris a estimé que la fortune de la famille Bongo provient de l'argent issu de détournement de fonds publics. Outre des enfants d'Omar Bongo et le groupe BNP Paribas, 14 personnes physiques sont poursuivies dans ce dossier, dont plusieurs Français et des membres de la famille du président congolais Denis Sassou Nguesso.
Le reste de l'actualité française, c'est aussi l'économie du pays. Le spectre de la récession s'éloigne, puisque la croissance a été plus forte que prévu au second trimestre, un 0,5% d'augmentation au lieu des 0,25% estimés par l'INSEE. Mais l'inflation continue de grimper à 6,1% sur un an, comme en Australie. D'ailleurs, sur le dernier trimestre, on le disait dans le dernier journal. Le ministre français de l'économie se veut optimiste. On écoute Bruno Le Maire.
Cela reste notre sujet de préoccupation numéro un. Et même si c'est le taux d'inflation, je le rappelle, le plus faible de tous les pays de la zone euro, c'est un chiffre qui crée beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de préoccupations chez nos compatriotes. Nous sommes dans le pic inflationniste et l'inflation restera à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2022. En revanche, je confirme que nous anticipons une baisse de l'inflation dans le courant de l'année 2023, à la faveur d'abord de la diversification de l'approvisionnement énergétique. C'est donc un cap difficile qu'il faut passer et pour lequel nous prenons toutes les mesures nécessaires pour accompagner nos compatriotes. C'est le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui a été adopté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale.
Et projet de loi qui vient d'ailleurs d'être adopté en première lecture au Sénat, projet d'urgence en soutien au pouvoir d'achat. On en vient à l'épidémie de variole du singe, ou monkeypox en anglais, qui continue de se propager à travers le monde. En France, ce sont 2000 personnes contaminées, annonce faite par Santé publique France. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes parlent de leurs symptômes et du manque de prise en charge médicale pour les dépistages. Mais aussi, les témoignages se multiplient sur ces mêmes réseaux sociaux pour dénoncer l'homophobie autour de cette maladie. Maladie qui touche particulièrement les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est le cas de Sébastien, 32 ans. On écoute.
On le voit bien sur les réseaux sociaux que ça se transforme en une maladie d'homosexuels, que c'est un virus gay. Il y a toute cette stigmatisation dès qu'on témoigne. Il y a plein de commentaires homophobes et stigmatisants sur l'homosexualité ou sur la sexualité gay ou sur la sexualité tout court. Moi, on m'a renvoyé plein de fois ce commentaire de où est-ce que t'as chopé ça, où t'avais qu'à mettre une capote, alors que ça suffit pas en fait. Je pense vraiment que le préservatif pourrait empêcher des cas de forme grave, notamment ces lésions sur l'urètre, le pénis ou l'anus. Mais ça protège pas du tout du monkeypox puisqu'un contact rapproché, la transpiration, le frottement suffit pour contracter le virus. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur comment se transmet le monkeypox et qui peut être touché, et en fait tout le monde.
On en vient à la météo de cet après-midi. Des pluies sur Perth, il fait 16 degrés. Des pluies également à Adélaïde, 17 degrés. 14 à Melbourne, 13 à Hobart, il fait nuageux. Du soleil à Canberra, 12 degrés. Du soleil à Sydney également, 16 degrés. 20 à Brisbane, 26 à Cairn et 31 à Darwin. Le rappel des titres. Le Premier ministre Anthony Albanese au Garma Festival pour proposer un référendum. Objectif, modifier la constitution australienne pour donner une voix au peuple aborigène. En Ukraine, un bombardement sur une prison dans le Donbass. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Et le secrétaire d'État américain a échangé avec Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Une première depuis le début de la guerre en Ukraine.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French tout de suite, la suite de l'émission et le journal des sports. Le journal des sports de ce samedi 30 juillet 2022. Et on commence avec le Tour de France féminin, une sixième étape de 128,6 km entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim. Dernière étape de transition avant les routes de montagne. Et c'est Marianne Vos qui s'est imposée au sprint et qui, par conséquent, conserve son maillot jaune. On écoute la cycliste néerlandaise au micro de notre collègue Christophe Mallet.
From 2006 to 2022 is 242 wins for you. What does that mean? What this one means to you?
Well, every race is a new race, and like in the Tour de France, every day is a new day, so you have to really be prepared and be focused. And we wanted to do well today. We were here with the team, try and take the stage victory. And with Anna Henderson in the breakaway, we had a perfect situation. The group behind it controlled it, and yeah, I had the team around me to keep me out of trouble, to keep me out of the wind. And then, with the final kilometers to go, it was really high speed and a good lead out. I got into the final kilometer in a good position, and then, of course, you want to finish it off. But I have to say, it was difficult. It was a difficult sprint, but I'm very happy I could keep the lead. We knew that the final weekend was going to be hard. We were aiming for the earlier stages. And to be in yellow still tomorrow, that's something we didn't really focus on. But of course, it has been a great week so far, and I'll try and recover and try to get ready for tomorrow as well.
Everyone refers to you as the GOAT, okay, the greatest of all time. But what does that mean for you? How do you take this on?
I don't know what to say. I mean, I'm just trying my best, and I try to do well in what I'm doing. And I have really nice people around me. I have a good team around me that really want to go for it. And yeah, for me, it's just... We're just riding our bikes and trying our best.
Marianne Vos, qui a également pris la tête du classement du maillot vert. De son côté, la Française Marie Lenette s'est vue attribuer le prix de la combativité. On écoute sa réaction.
C'est la journée la plus belle que j'ai vécue sur le vélo. C'était aussi l'une des plus dures, je vous avoue, c'était horrible. Mais mon but, c'était d'aller dans les échappées, donc j'ai réussi à saisir l'échappée du jour. Ensuite, dans la radio, on m'a demandé de ne pas rouler dans cette échappée parce qu'il y avait des grosses équipes qui contrôlaient dans le peloton, donc cette échappée n'était pas vouée à aller très très loin. Finalement, l'échappée a été plus loin que prévu, et quand ça a commencé à s'exciter un peu devant, je me sentais bien, je sentais que j'arrivais à bien suivre les coups. Et après, dans l'oreillette, j'ai entendu « Bah Marie, ta carte blanche ». Et là, je me suis dit... Allez, vas-y, saisis ta chance, c'est ton jour. Donc j'ai cherché le moment le plus opportun pour attaquer. J'ai tout donné, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas manqué grand-chose, mais je suis fière de ce que j'ai réussi à montrer aujourd'hui en tout cas.
Ce soir, la 7e étape 100% alsacienne entre Célesta et le Markstein. 3000 mètres de dénivelé positif avec un enchaînement de 3 cols. Les précisions de Christophe Diremzian pour Radio France Internationale.
Le moment de la grande explication entre prétendantes au sacre va commencer sur des pentes alsaciennes à faire peur aux moins habitués. 3000 mètres de dénivelé positif au total, des passages à 10% sur les deux premières difficultés avant une montée de plus de 13 km vers le grand ballon. Même la maillot jaune Marianne Vos sent qu'elle ne jouera pas les premiers rôles.
Il faut être réaliste, c'est un profil d'étape complètement différent aujourd'hui et demain. Je suis déjà très contente de ma semaine. Je vais tâcher de récupérer et d'être prête.
Et que dire des formations sans grimpeuses comme Saint-Michel-Aubert, Coralie Demey s'attend à passer une journée galère.
Quand on est déjà à la rue dans des cols, c'est interminable, c'est long. Surtout que même si on est à la rue, on va se faire mal tout pareil en fait. C'est juste que nous, on n'a pas les mêmes capacités. Puis si on a vraiment un coup de moins bon, c'est sûr qu'en montagne, tu peux te rattraper à rien. L'inspiration dans les roues, ça sert pas. Donc c'est tout ça qui est dur.
L'optimisme sera plus de mise pour la meilleure française du classement général, Juliette Labousse, confiante sur ses terres après une victoire sur l'étape reine du récent Tour d'Italie, mais elle devra composer avec la grimpeuse à battre, la néerlandaise Annemiek van Vleuten, pas très en forme au début de la semaine, ou la sud-africaine Ashley Moolman en embuscade pour le podium final.
La 7e étape est comme tous les jours à suivre en direct sur SBS. On reste en France et on apprend que Montpellier accueillera les prochains championnats d'Europe de judo en novembre 2023. Montpellier qui servira également de camp de base pour la préparation des JO 2024. En Formule 1, le pilote allemand Sébastien Vettel va prendre sa retraite à la fin de la saison. Arrivé en F1 en 2007, le quadruple champion du monde et vainqueur de 53 Grands Prix évoque des raisons sportives et familiales. On l'écoute.
It's not like I feel old or I feel physically limited to do what I have to do, but it's a whole bunch of things, and I know how much you can dedicate to this sport and how intense it can be, and then it means as well that there's not much room for other things, and it's the other things that I can't ignore anymore, and they are growing. Literally, I have children; they are getting taller and bigger and stronger in their heads and in their minds. So things that I don't want to ignore and want to look after. So ultimately I'm in front of the choice what to do, and you know the answer now.
Un mot d'athlétisme et le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango, sacré vice-champion du monde à Eugene avec son saut à 17,55 m. Il est depuis rentré à Ouagadougou sous la clameur de ses fans. La correspondance de Gabriel Barrois pour RFI.
La jeunesse, c'est l'espoir. C'est pour cela que ma médaille, je la dédie à la jeunesse.
C'est justement cette jeunesse mobilisée autour de la troupe d'animation de l'Union des supporters des étalons qui a accueilli cette nuit Hugues Fabrice Zango en héros dans une ambiance festive et bon enfant.
Hugues Fabrice Zango, c'est une personne vraiment qui se donne à fond pour le Faso. Nous sommes là pour l'encourager et c'est comme ça.
Ce que nous faisons ce soir, c'est l'encourager à donner le meilleur de lui-même pour les prochaines compétitions, afin de nous ramener la médaille d'or.
Souriant, décontracté et toujours sur un nuage, Hugues Fabrice Zango, qui continue de savourer sa médaille d'argent du triple saut, obtenue aux Mondiaux d'athlétisme des États-Unis, se projette déjà pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Objectif, la médaille d'or.
Les résultats ont juste commencé en 2019 réellement sur le plan mondial. Nous avons 2 bronzes et 1 argent, donc il y a encore quelque chose à aller chercher au-dessus et c'est la médaille d'or. Et en tout cas, j'espère qu'avec tout votre soutien, nous pourrons travailler et pouvoir relever de plus grands défis.
Football et le FC Barcelone qui n'en finit plus de recruter. Dernière en date, le français Jules Koundé, nouveau nom d'une liste dans laquelle figure déjà le milieu ivoirien Franck Kessié. Sofiane Amazian, RFI.
Après le recrutement de Robert Lewandowski ou de Rafinha, on en oublierait presque l'arrivée libre du milieu ivoirien, référence à son poste en Italie. Franck Kessié, arrivé en provenance du Milan AC début juillet, s'est déjà très bien intégré à son nouvel environnement catalan.
Ça se passe bien, grande ambiance. Les copains, ils ont été très chaleureux, très accueillants, ils m'ont bien accueilli. Et c'est comme si je suis arrivé dans une seconde famille. Et jusqu'à là, tout va bien, tout se passe bien, les entraînements avec le staff, les collègues, tout va bien. Toute l'équipe est très accueillante, très chaleureuse, donc ça va pousser les nouveaux à les mettre facilement dans le bain, à facilement s'intégrer. Tu as les joueurs ici qui sont tous, vraiment tous les joueurs ici sont tous bons. Et on a aussi un super staff qui travaille bien, donc on espère et on bosse beaucoup pour faire de bonnes choses cette saison.
Franck Kessié et ses coéquipiers débuteront le championnat d'Espagne le 13 août prochain face au Rayo Vallecano.
2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende, c'est ce que requiert le parquet de Barcelone à l'encontre de Neymar. La justice espagnole reproche au footballeur brésilien qui joue maintenant au Paris Saint-Germain des irrégularités lors de son transfert entre le Santos FC et le FC Barcelone. C'était en 2013. Le procès se tiendra à Barcelone à partir du 17 octobre. Football toujours et l'équipe locale du Togo, victorieuse de la Côte d'Ivoire en amicale en préparation des éliminatoires pour le championnat d'Afrique des Nations. Sofiane Amazian, RFI.
Compétition exclusive aux joueurs évoluant en Afrique. Hier, les Éperviers A' ont dominé les Ivoiriens. Victoire 3-1. Lionel Adbuy, milieu de terrain des Éperviers locaux, qui n'a pas encore participé à une phase finale, explique ce que représente le CHAN pour les joueurs locaux.
Le CHAN, c'est une très bonne opportunité pour nous, les joueurs locaux, pour qu'on fasse de notre mieux pour pouvoir y aller. Ça peut nous permettre de réellement monnayer notre talent. Lors du dernier CHAN, il y a eu 3 à 4 joueurs de notre équipe nationale locale qui ont pu signer des contrats avec des clubs de l'extérieur. Donc, c'était une très bonne opportunité pour nous. Il s'agit de Marouf Tchakei. Tchakei, il est à l'AS Vita Club. Nani Ndoutier, il est à Afia de Guinée. Ismaël Agoro, il est à Saint-Georges de l'Éthiopie. Et puis, il y a actuellement Abdoul Aïkba Adari. Il est à Tukla. Ça leur fait beaucoup de bien parce qu'on a l'occasion de s'échanger entre nous. Donc, ça leur fait beaucoup de bien. On y travaille chaque jour pour faire de même que. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour y arriver.
Le Togo jouera sa qualification pour le championnat d'Afrique des Nations fin août. Ce sera contre le Niger. Et du CHAN à la CAN, la Confédération africaine de football a décalé les prochains matchs de qualification.
Décision logique, hein, puisque la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire se tiendra entre janvier et février 2024. Les matchs prévus en septembre sont donc repoussés en mars prochain, permettant ainsi aux 5 nations africaines mondialistes de disputer des matchs de préparation. Et puis en bref, à noter que la Renaissance de Berkane a remporté au tir au but la Coupe du Trône face au rival du Wydad de Casablanca. Pas de triplé donc pour les joueurs de Walid Regragui, vainqueur du championnat marocain et de la Ligue des champions africaines.
En Centrafrique, la Fédération de basket, en partenariat avec le lycée français Charles de Gaulle, vient de lancer une filière sport-études à Bangui afin de favoriser l'émergence de nouveaux talents. La nouvelle filière est réservée aux jeunes de 10 à 15 ans. Reportage sur place de Rolf Estève Domialeux.
On les appelle Phoenix comme un symbole de la renaissance du basketball centrafricain. Ces jeunes n'ont pas plus de 15 ans, mais sur ce parquet, le ballon orange n'a aucun secret pour eux. Si le basket est considéré comme sport roi en Centrafrique, Saint-Just de Pascal, 15 ans, travaille dur pour avoir une place dans la royauté.
C'est une passion pour moi. Je voudrais bien devenir un basketteur professionnel qui portait les couleurs de la République centrafricaine.
Et pour y arriver, les jeunes s'entraînent 3 fois par semaine, un planning qu'ils cumulent avec les études. Anissier Dotoko est entraîneur détecteur.
Au conseil, vous avez plus de 30 gamins et un tri a été fait. On a des critères tactiques, physiques. La fédération a pris le temps. À l'issue de ce travail, on a pu retenir 7 qu'on va compléter à ceux qu'on a ici au lycée français pour pouvoir lancer le sport études basket.
Un atout de plus pour la fédération qui travaille déjà en partenariat avec des écoles de basketball à l'étranger. Maurice Bénin, directeur technique national.
On a déjà la branche avec la NBA Academy, on a la branche avec les universités américaines. Là, ça nous permet de rentrer sur les centres de formation directement en partant de Bangui, de les préparer pour les futurs fauves de l'équipe nationale à la fin de leur cycle d'études.
Et la fin, c'est dans 3 ans. Les meilleurs auront la possibilité d'intégrer des clubs professionnels en France.
Et lors du dernier Afrobasket l'an passé, les Fauves de RCA se sont classés 14e sur 16 équipes en compétition. Voilà, c'était votre journal des sports de ce 30 juillet. Poser des mots interprétés par Motel Club. On vous le disait en sommaire, comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Léo Roussel nous fait voyager aujourd'hui en 1980. Nous sommes le 30 juillet et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 1980. Le 30 juillet, il y a 42 ans, le Vanuatu devenait un état indépendant après plus d'un siècle de colonisation, notamment par la France et le Royaume-Uni. L'archipel aux plus de 80 îles situées dans le Pacifique et auparavant nommée Nouvelle-Hébride, changé par la même occasion de nom. Retour sur le processus décolonial et la fin de la gouvernance franco-britannique avec Léo Roussel et des archives sonores de l'Institut National de l'Audiovisuel, de France Télévisions et de TF1.
Mercredi 30 juillet, les représentants de la France et de l'Angleterre s'asseyaient pour la dernière fois côte à côte dans une cérémonie officielle à Port-Vila. Mais l'équilibre qu'avait fait naître cette rivalité est désormais rompu. Majoritaire au Parlement mais non dans le pays, les anglophones sont les maîtres absolus de la nouvelle République du Vanuatu.
Fini les Nouvelles Hébrides, place au Vanuatu. Vous venez de l'entendre dans ce reportage diffusé sur TF1 en août 1980. Le Vanuatu est devenu un état indépendant le 30 juillet 1980, après des décennies passées sous le condominium français et britannique. Alors cette indépendance, les habitants des 83 îles de l'archipel vont l'obtenir après un processus de plusieurs décennies. Je vous propose d'abord de comprendre comment ces îles se sont retrouvées gouvernées par le Royaume-Uni et la France. Le Vanuatu, ce sont donc toutes ces îles situées à environ 2500 km du nord-est de l'Australie et à quelques 500 km au nord de la Nouvelle-Calédonie en mer de Corail, un archipel composé de nombreuses îles volcaniques et peuplé depuis plusieurs milliers d'années. Plusieurs vagues de colons vont dès le XVIe siècle débarquer, piller et tuer les premiers habitants de l'archipel, comme l'explique cet extrait de documentaire diffusé sur France Télévisions en 2020.
Mendanya, Quiros, Torres, ces découvreurs espagnols ou portugais vont baptiser les îles qu'ils abordent, comme celle d'Espirito Santo. Mais au nom de cet Esprit Saint et du roi d'Espagne, les prises de possession vont souvent finir dans le sang.
C'est finalement en 1774 que James Cook va renommer cet archipel Nouvelles Hébrides, mais il faut attendre la fin du 19e siècle pour voir les Britanniques et les Français véritablement s'installer au Vanuatu, et le condominium des Nouvelles Hébrides sera lui signé en 1906 par les deux puissances coloniales. Alors cette phase de colonisation, elle va voir la population autochtone décimée, comme les autres populations mélanésiennes en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Nouvelle-Calédonie. Elle va passer de 1 million en 1800 à 45 000 en 1935. On va même voir jusqu'au début du XXe siècle la pratique du blackbirding, autrement dit la séquestration et le travail forcé des populations autochtones, en clair l'esclavage, bien que celui-ci soit interdit depuis 1848 en France. Progressivement au XXe siècle, on va voir naître des idées d'indépendance qui vont se faire de plus en plus pressantes au début des années 1960 sous l'influence du mouvement décolonial. Et dans les années 1970, le Royaume-Uni et la France vont progressivement préparer leur départ et l'indépendance des Nouvelles Hébrides, qui intervient finalement le 30 juillet 1980, mais qui va, en raison de la dualité de la gouvernance pendant près d'un siècle, laisser d'importantes disparités culturelles et religieuses. Voici ce que déclarait Olivier Stirne, alors secrétaire d'État aux affaires étrangères à l'époque, à ce sujet.
S'il y a eu sans aucun doute des conséquences heureuses de la présence française et de la présence britannique dans ce pays, notamment sur le plan économique, il faut voir qu'il y a eu aussi des conséquences négatives. Car après tout, ces querelles ont été aggravées par la présence des Français et des Anglais qui ont apporté l'un et l'autre leur religion, qui ont apporté l'un et l'autre leur influence et qui ont sans aucun doute accentué les rivalités actuelles. En nous retirant, nous pouvons espérer que ces rivalités s'estomperont et que la réconciliation nécessaire, souhaitable, se réalise.
Aujourd'hui, le Vanuatu est donc une république, sa capitale est Port Vilas et ses relations avec la France se sont quelque peu estompées, au profit notamment d'autres soutiens économiques pour l'archipel en provenance de l'Australie ou encore de la Chine plus récemment. Il y a 2 ans, le Vanuatu a fêté ses 40 ans d'indépendance.
Quand elle bougeait comme ça, j'imaginais son lit avec moi sous les draps. Elle avait décidé.
C'était un extrait de la chanson Émilie dansée par Mickey 3D. On vous le disait en sommaire, on vous emmène maintenant dans les territoires du Nord au Garma Festival, un festival consacré à l'art, la culture, la danse, la musique aborigène, mais où cette année une saveur toute particulière se fait sentir puisque la culture se mêle à la politique.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Depuis hier, il y a dans les Northern Territories le Garma Festival. C'est un festival qui promeut la culture aborigène. Sana Wahib y est pour SBS et nous la retrouvons depuis le festival. Sana, bonjour.
Bonjour Marianne.
Parlez-nous du Garma Festival, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors Marianne, après une absence de 2 ans en raison de l'épidémie, le festival annuel Garma revient à nouveau dans sa 22e session pour présenter ses activités du 29 juillet au 1er août. Je suis maintenant à Galkola, l'Arnhemland, dans le territoire du Nord, à 40 km de la petite ville Nolambay, sur la péninsule de Gove. Il fait très chaud. Il y a pas mal de touristes, c'est tellement différent de Melbourne, c'est différent de Sydney et des grandes villes australiennes.
Et donc ce festival, c'est pour célébrer l'art, la culture, la musique, la danse aborigène ?
Exact. Alors, il y a pas mal de choses culturelles. On a vu la boule, c'est une danse spirituelle. Alors, hier, le vendredi, ça a commencé avec cette danse à 4 heures. C'est-à-dire vers 16 heures. Il y avait pas mal de jeunes qui ont dansé. Il y avait aussi pas mal de dames aborigènes et aussi les gens qui sont venus avec le premier ministre Anthony Albanese à endosser aussi.
Anthony Albanese est au festival, pourquoi ?
Alors, Albanese n'a rien dit hier. Tout ce qu'il a fait, il a assisté, il est venu et il a vu les gens qui l'ont accueilli très, très chaudement. J'ai même entendu des gens qui lui ont dit « You are a great man, Albanese ».
Vous êtes un homme bon, Anthony Albanese, donc il est accueilli chaleureusement, positivement. Et alors pourquoi ? Parce que les aborigènes ont l'impression qu'il va faire plus pour eux lors de son mandat que ce que Scott Morrison a fait ?
Justement, Marianne, là on parle toujours avec de la déclaration du loulou. Est-ce que ça va prendre place ? Je pense que oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent oui. Albanese a promis au peuple aborigène que ça va entrer en vigueur.
Et vous l'avez dit justement, hein, ce festival cette année a une saveur toute particulière parce que c'est le premier depuis le Covid. Mais surtout cette année, on célèbre aussi les 5 ans du Statement from the Heart. Quels sont les enjeux du festival cette année ?
Ce que j'ai vu aussi, c'était des chants traditionnels, des chants qui ont été hérités par ces gens pour des milliers d'années. On n'oublie pas que cette culture a vécu pendant 65 000 ans.
Les attentes principales cette année, ça vient bien au-delà d'un festival culturel, on est presque politique.
Politique et aussi des échanges culturels. Aussi, on parle de l'éducation des enfants aborigènes. On parle de leur santé. On parle de pas mal de choses. Il y a aussi des films qui vont être diffusés demain dimanche. 3 films qui sont très connus par les aborigènes. Malheureusement, j'ai pas les noms des films.
Quelles sont les attentes après ce festival ?
Les attentes, je pense, la plus importante. C'est le référendum dont on parle. Est-ce qu'on va faire ce référendum ? Est-ce que la voix aborigène va entrer en vigueur ? Est-ce que la déclaration du Loulou va entrer en vigueur ? Ça, on va le voir, c'est le festival.
Sana, vous avez parlé d'une diffusion de 3 films dimanche. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur le programme prévu du festival pour les prochains jours ?
Il y a les films, il y a aussi les danses traditionnelles, les chants traditionnels, les échanges culturels.
Sana, on le répète pour nos auditeurs de SBS, vous êtes depuis le festival, vous suivez les 4 jours. On va vous téléphoner demain encore pour que vous nous disiez ce que vous avez vu, ce que vous voyez autour de vous, tout ce qui s'y passe pour l'émission de dimanche. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et je vous dis à demain, Sana.
Merci à vous, Marianne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, le plaisir d'avoir sur nos ondes de radio SBS en français en Australie, Mathieu Granger. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et vous êtes ici en Australie pour une visite éclair pour l'installation Light Circles dans le cadre de ce festival, de la Midwinter Festival Illuminate Adelaide dans les jardins botaniques. C'est un spectacle qui dure 1 heure. À quoi est-ce que le public peut s'attendre?
Bien, écoute, l'expérience, comme vous l'avez dit, dure à peu près 60 minutes, est prévue pour ça, mais généralement, le public peut passer le temps qu'il souhaite. C'est une expérience qui se vit au rythme du public. Donc, il y a une série de 7 installations qui sont installées à l'intérieur du jardin botanique ici à Adélaïde. Cette installation qui ont été adaptées de d'autres installations qu'on a faites dans le passé, certains qui ont été créés l'année passée pour la première édition de Illuminate Adelaide. Et donc, le public sont invités à découvrir cette installation multimédia qui raconte un peu la relation entre l'homme et la nature, puis qui jette un peu c'est la lumière sur des effets naturels qui se passent, qui impliquent la lumière. Et c'est nous, c'est notre interprétation de ces expériences-là ou de ces phénomènes naturels-là.
Et les spectateurs, d'après ce que je comprends, devront marcher également pour apprécier ce spectacle. Et comme musique en toile de fond, que proposez-vous?
Bien, en effet, l'expérience se marche. C'est une marche qui varie, qui est à peu près 1,5 à 2 km. Donc, on fait travailler le public un peu. C'était quand même une belle marche dans le jardin, donc pas trop de côtes. C'est juste assez sinueux. Mais comme trame de fond, nous avons aussi, donc on parle souvent de lumière et tout, mais comme trame de fond, on a un environnement sonore qu'on a créé pour l'occasion. Qui nous permet de supporter selon l'installation, les émotions qu'on cherche. Donc parfois c'est introspectif, c'est un peu nostalgique, parfois c'est plus hop la vie, un peu plus magique par moment. Mais c'est vraiment une expérience taillée et synchronisée. Donc l'expérience que vous vivez en tant que spectateur, les effets au niveau de la lumière et des effets vidéo et sonores sont toutes synchronisées pour permettre aux clients qui nous arrivent d'un peu partout, à n'importe quel temps, il y a du monde qui arrive en retard, du monde qui arrive en famille, du monde qui arrive seul, en date. Donc l'idée, c'est de trouver une façon d'aligner le public, d'aligner le public pour qu'il arrive et qu'il vit au gré de la soirée une expérience qui leur est présentée, puis au rythme qu'on souhaite les apporter, cette clientèle-là. Moi, c'est certain que le client peut choisir de le faire plus rapidement qu'un autre, mais notre but, c'est que le monde arrive et prenne le temps de savourer chacun de ces installations-là.
Et je me demande, cette installation demande beaucoup d'heures de préparation, d'organisation. Et je pense aussi à la météo qui doit jouer beaucoup dans ce genre de spectacle.
Oui, absolument. Ça joue beaucoup dans l'installation, les efforts qu'on met en amont. Mais je vous dirais que le spectacle a été conçu à être vécu dans tous les types d'environnement climatique. Donc là, ici, c'est plutôt mouillé, un peu plus frais, mais il n'y a rien qui fait en sorte... On invite le public à sortir s'il pleut ou s'il fait soleil, d'être équipé, d'être bien habillé pour la soirée. C'est quand même frais à Adélaïde en soirée. Le jardin botanique étant très riche au niveau de la biodiversité, il y a beaucoup d'humidité qui est retenue dans l'air, mais ça fait vraiment un environnement magique pour vivre une expérience comme ça. Donc on invite le public de sortir tant dans une belle soirée ou la pluie, mais de venir équipé pour marcher dehors. Il n'y a personne qui va fondre avec un peu de pluie, mais de venir vivre l'expérience. Et l'expérience est d'autant plus relevée, je dirais, par soirée soit de grand froid ou de pluie. Il y a quelque chose de magique qui apparaît, qui est plus puissant que ce que nous, on aurait pu mettre de l'avant comme expérience. Donc, non, on invite le monde de venir, peu importe la météo.
Et vous êtes en Australie depuis quelques jours. Parlez-nous de vos impressions d'Adélaïde. Est-ce que vous avez le sentiment que les organisations du monde de l'art se mobilisent assez bien pour encourager le public à retrouver ce genre de festival?
Oui, absolument. Mais oui, en effet, ça fait juste 48 heures que je suis ici cette fois-ci. Mon équipe, on a plusieurs créatifs qui sont ici depuis une semaine ou plus. Mais on a appris à connaître la ville puis les organisateurs ici l'année passée, lors de la première édition de l'événement. Ce qu'on a rencontré ici, c'est une équipe vraiment la plus haute gamme, là. C'est une qualité internationale au niveau de la production événementielle. Les fondateurs du festival, Lee, Rachel, et les équipes qui ont mis en place, c'est vraiment, vraiment la Cadillac, comme on dit. C'est vraiment plus grande expérience. Puis on a pu, avec eux, développer une expérience qui est vraiment à la hauteur de l'événement international qui souhaite être ici à Illuminate. Donc on a pu présenter l'année passée une expérience vraiment de haut niveau qui a été interrompue par les lockdowns, les fermetures et tout. Le voyage inter-État a été impacté l'année passée. Donc, ce qu'on souhaite pour cette année, c'est que le public qui n'a pas eu la chance de venir à South Australia ou à Adelaide ait la chance de participer à cette expérience ici. Donc, à Light Cycles, bien entendu, mais à ce que Illuminate Adelaide est devenu. Donc, dans sa deuxième année déjà, mais présente une programmation hyper riche avec des artistes de partout, des artisans de la lumière, et du multimédia qui viennent de partout. Donc, on est choyé d'être entouré d'une organisation aussi haut de gamme, mais aussi avec des artistes qui nous arrivent de partout et qui nous inspirent, nous aussi, comme créateurs. Moment, on travaille partout dans la planète. On a des bureaux un peu partout, puis des projets un peu partout. Mais c'est toujours inspirant de se retrouver avec d'autres artistes qui font un peu le même médium que nous autres.
Parlez un petit peu de Moment Factory, votre compagnie, et que faites-vous après Adélaïde et le reste de 2022?
Ah ben, c'est triste, ça finit plus. Les opportunités sont un peu partout pour nous. Donc Moment, on travaille tant dans l'industrie de la musique qui est le pop, rock and roll. On est en tournée avec des artistes comme Halsey, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Arcade Fire. Donc, on a ce côté-là de la compagnie. Moi, j'opère plus au niveau des installations multimédia nocturnes, donc les marches, comme on vous présente ici. Mais on vient juste d'ouvrir, c'est le début de la saison. On a 14 expériences luminantes. Donc, c'est des marches nocturnes enchantées qui sont installées un peu partout sur la planète, au Japon, en France, au Canada, aux États-Unis. Donc, ces événements signatures de Moment Factory opèrent en ce moment un peu partout. Puis, on est en développement sur plein de nouveaux projets un peu partout sur la planète. Donc, c'est pas les opportunités qui nous manquent à ce point-ci. C'est de partir à la rencontre de gens intéressants qui veulent, tout comme nous, pousser les limites et présenter à leur public cible une expérience de qualité, puis où on se laisse surprendre par le processus aussi. Donc, partir à la découverte puis de rencontrer des nouveaux intervenants, tout comme ici à Adélaïde, nous permet de grandir comme compagnie. Puis c'est quelque chose qu'on cherche à faire continuellement.
Et je rappelle que votre installation Light Cycles dans les jardins botaniques d'Adélaïde, c'est très prochainement jusqu'au 31 juillet. Mathieu Granger, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie. Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h56, c'est l'heure du rappel des titres. Le Premier ministre Anthony Albanese au Garma Festival pour proposer un référendum, objectif modifier la constitution australienne pour donner une voix au peuple aborigène. En Ukraine, le bombardement sur une prison dans le Donbass qui a fait Moscou s'accuse mutuellement, alors qu'en parallèle, l'exportation de céréales pourrait reprendre depuis les ports de la Mer Morte, un espoir pour la sécurité alimentaire mondiale. Et en sport, deuxième victoire d'étape pour la néerlandaise Marianne Vos qui conserve son maillot jaune et prend également la tête du classement du maillot vert. La française Marie Lenette se voit, elle, attribuer le prix de la combativité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, même fréquence, même heure. Si vous voulez réécouter cette émission en intégralité ou seulement certaines chroniques, vous pouvez vous rendre sur notre site internet sbs.com.au/french, sur notre page Facebook SBS French, Spotify, Apple Music ou encore toutes vos plateformes de podcast préférées. Je m'appelle Marianne Murat, j'ai été ravie de passer cette heure en votre compagnie. Il est presque 14h ici à Melbourne, je vous souhaite un bon après-midi et de passer un très bon week-end. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.